Je vais vous lire la conclusion du livre « Habiter, une philosophie de l'habitat » de Bernard Clazen, paru aux éditions Salvator en 2018. Conclusion. De plus en plus de nos contemporains se rendent compte de la solidarité de destin de notre humanité et de notre terre. À dire vrai, la nature même de notre corporéité nous l'avait depuis longtemps laissé entendre. Ce lien jadis constituait le souci du paysan. Sa vie économique et sociale dépendait de sa vigilance. Il n'en est plus ainsi, et cependant, après une longue période où l'inquiétude dominante était salariale, ce souci de maintenir, de préserver le milieu de vie revient très fortement et s'imposera avec évidence dans le très proche avenir, mais sous une autre forme. Il nous faut prendre garde de la façon dont nous habitons pour prendre en garde notre terre. Ce souci écologique imprévu il y a quelques décennies n'est pas une mode, mais l'amorce d'un virage tout aussi fondateur pour nos cultures que l'avènement de l'ère industrielle. Ce souci descend enfin jusqu'aux gestes quotidiens. Or, nous n'habitons qu'ainsi, quotidiennement, par le geste ordinaire. C'est celui-ci qui est le vrai pédagogue, en même temps qu'il est le révélateur de notre façon d'être au monde. Il nous faut ménager la terre en commençant tout de suite et ici. Un des textes les plus importants sur l'écologie, celui du pape François, son encyclique Laudate Si, revient sans cesse sur ces questions qui sont autant éthiques qu'ontologiques et anthropologiques. Le sous-titre de son texte est « Notre maison commune ». Bien que les phénomènes d'agrégation et d'urbanisation ne cessent de prendre de l'ampleur jusqu'à tout envahir, le régionalisme et le goût pour le terroir n'ont jamais tant proliféré. Mais aussi, et c'est plus grave, les identités groupusculaires et les ferventes stigmatisations. Les deux phénomènes ne sont pas sans lien, évidemment. Ces réflexes territoriaux ne sont pas les derniers soubresauts d'une culture en train de passer. Ils sont l'indice d'un recours nécessaire à quelques racines, à une référence stable pour s'orienter, comme nous l'avons observé. Et ils sont une réponse à un sentiment de dette. Ce monde qui nous précède, ces gens qui sont nos pères et nos aïeux, nous en héritons. Ils ont exercé à notre égard la responsabilité d'assumer le futur et de le garantir. Remontés sur la ligne du principe responsabilité de Hans Jonas, nous donne de comprendre que nous sommes l'être au monde qu'ils avaient la responsabilité de rendre possible. C'est cela le sentiment d'une dette, et avec lui vient la gratitude envers ce monde. Ces attachements au lieu sont parfois excessifs, mais le sont, semble-t-il, au prorata des dérèglements urbains et des turbulences de la vie affairée. Toutefois, il faut le rappeler à ceux qui font de la dislocation une fatalité, une contrainte liée à l'inexorable civilisation de la mégapole, et qui font de nous des nostalgiques irréalistes. La ville n'est pas forcément monstrueuse. Il y a aussi des paysages urbains, des ambiances citadines. La ville n'est pas un non-lieu. Le côtoiement n'implique pas la perte d'identité. Le brassage n'égalise pas les cultures et le grand nombre n'abolit pas les limites. De même, le souci d'habiter n'a pas disparu, contrairement à ce que prétendent les partisans de la rupture avec l'obsession du lieu. Tout au contraire, ce point fixe ne peut être une simple étape dans un réseau de flux entrecroisés, comme une sorte de station-service. Il faut qu'il soit mien. Il faut, nous croyons l'avoir suffisamment étayé, qu'il y ait un « chez soi » pour que l'humanité en nous soit humanisée. Et elle le sera en puisant aux héritages qui fondent notre vie. Le désir de conquête et d'exploration, la curiosité du voyageur en font partie, certes, mais d'abord la nécessaire communauté corporelle, affective, familiale, puis sociale, la langue parlée, les rites et les croyances, bref, ce qu'on peut appeler des lieux, que le lieu concret, fraction limitée de territoire, rend effectif. Mais ce sont précisément ces valeurs que contestent en bloc les déracineurs. Sans avoir défendu systématiquement ces valeurs héritées, contestées parce que héritées, nous avons toutefois montré que le désarrimage par rapport à elles manquait la vérité de ce que nous sommes. Habiter ouvre un large paradigme que nous avons exploré sous l'angle préférentiel de l'enracinement et du lieu, suivant en cela Heidegger. Notre commentaire de ces textes sur l'habitat s'est ouvert largement à des apports qui viennent compléter sa pensée. Si la place cédée à ses détracteurs est importante dans notre travail, ce n'est pas pour prendre sa défense envers et contre tout, mais parce qu'ils nous ont donné l'opportunité de vérifier ses intuitions radicales. Les arguments des déracineurs ne sont pas faibles, mais ils reposent sur des pronostics très discutables et ils reprochent à Heidegger des oublis qu'ils n'ont pas su eux-mêmes éviter, notamment sur la question de la fraternité humaine et celle de la corporéité. Nous voulons achever ce parcours en évoquant une éthique de l'habité que nous ouvrons brièvement sur 5 domaines. Le premier est déjà énoncé plus haut. C'est le souci écologique. « Tu n'es pas à l'hôtel », disent parfois les parents exaspérés des comportements nonchalants et égocentriques de leurs enfants. De même, faudrait-il rappeler à tout habitant « Tu n'es pas dans un endroit, mais en un lieu. Nous ne sommes pas en ce monde comme dans un contenant ou sur un support quelconque, nous sommes vraiment avec lui. Et le lieu, plus qu'une place indifférente, centralise notre espace de responsabilité. » La seconde exigence éthique pour l'habitat consiste à relativiser et à contester la culture de l'agitation et du mouvement. Cette incessante mobilité est le prétexte ou la justification d'un comportement frénétique de toute puissance. Au mieux, elle est une mascarade de jeunesse, car c'est bien le propre de la jeune relève que de partir. Sa mobilité est dans sa nature. Ce n'est pas pour autant que la mobilité rende la jeunesse. Vient un âge où celle-ci est plutôt infidélité et superficialité que dynamisme et créativité. Au pire, elle est le cache-misère de notre incapacité à agir vraiment. Affairés sans rien faire, voilà ce que nous sommes bien souvent. Une troisième attitude éthique tient dans la gratitude. Le repos que nous offre la maison et l'hospitalité qui nous y est faite devraient nous indiquer que ce sentiment proche de la paix et du recueillement s'éduque aussi. Qu'il est bon d'être ici n'est pas le soupir de l'homme repu qui paraisse dans un laisser-faire blasé, un laisser-non-faire. Ce peut être l'expression d'une reconnaissance. Sans reconnaissance ni gratitude, la demeure devient le cercle étroit de la lassitude et des querelles mesquines. Encore une vertu pour la quatrième leçon d'éthique, celle de l'humilité. Humilité comme humus, la terre. Nous sommes bel et bien de quelque part, petit endroit, si petit. Nous ne sommes pas au-dessus de ce lot. Comme le disait le poète portugais Miguel Torga, l'universel, c'est le local moins les murs. Il ne s'agit en rien de nier le bien fondé des limites, mais de ne pas les ériger en murs qui isolent dans un repli frileux et dans un souverain mépris. Nous ne sommes guère que localement, et tous le sont. C'est notre commune condition première. Notre appartenance au monde qu'avec tout le monde nous partageons. Reconnaître cet humus premier, ce presque rien, qui nous porte et nous fait, c'est la plus simple des sagesses. Enfin, le cinquième principe éthique pour habiter consiste à vivre une esthétique de la quotidienneté. Il n'est pas fatal que l'ordinaire de nos existences s'abîme dans l'ennui et la routine. Habiter, c'est aussi vivre l'instant. C'est se rendre attentif aux choses alentour, c'est poétiser le lieu et les gestes du quotidien, comme le firent Francis Ponge et son parti pris des choses, ou Stanislas Breton avec sa poétique du sensible, ou encore Gaston Bachelard et ses rêveries matérielles. C'est cet émerveillement, cet art de dénicher la beauté discrète qui habite là avec nous, qui nous conduit à la reconnaissance et à la gratitude. Le beau est la porte des vertus de l'humilité, de la sensibilité et de l'accueil, c'est-à-dire ces qualités qui donnent de se reconnaître dans une heureuse dépendance d'autrui. Grandir, c'est pouvoir dire « je te dois tant ». Laissons les derniers mots à Maldiné. Henri Maldiné. Regard, parole, espace. L'esthétique, elle aussi, est une éthique. Éthos, en grec, ne veut pas seulement dire manière d'être, mais séjour. L'art ménage à l'homme un séjour, c'est-à-dire un espace où nous avons lieu, un temps où nous sommes présents et à partir desquels, effectuant notre présence à tout, nous communiquons avec les choses, les êtres et nous-mêmes dans un monde, ce qui s'appelle habiter.